France Culture. France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis qui nous emmènent à Arles aujourd'hui. Dans un instant, nous serons avec Christophe Wissner, directeur des rencontres de la photographie, dont la 56e édition a débuté par un record de fréquentation. Puis nous recevrons Jeannette Stettner et Virginie Chardin pour l'exposition consacrée à Louis Stettner, qui de Brooklyn aux Alpilles a photographié le monde qui l'entourait pour mieux s'y relier. Avant de retrouver, après le journal, la plasticienne et photographe Agnès Geoffrey pour son travail autour des écoles dites de préservation, lieu d'enfermement pour jeunes filles jugées déviantes entre la fin du 19e siècle et les années 50. Bonjour Christophe Wissner.
Bonjour Chloé.
Merci d'être avec nous pour quelques minutes en direct d'Arles, où les rencontres battent leur plein. Elles ont commencé le 7 juillet, se poursuivent jusqu'au 5 octobre. Je le disais, record de fréquentation pour la semaine d'ouverture. Comment regardez-vous, appréciez-vous ce début d'édition?
Je l'apprécie avec plaisir, et comme d'ailleurs toute l'équipe, puisqu'on est quand même assez nombreux. En ce moment, on est plus de 350 personnes sur site, à accueillir donc le public. Oui, on a eu une très très belle fréquentation, avec, comme toujours, pendant la semaine d'ouverture, à peu près 50% d'étrangers. Mmh. Et puis ensuite, voilà, ça se lisse sur le reste de l'été.
Alors, on va en avoir deux échos très différents au cours de cette émission, mais il faut revenir quand même sur ce titre manifeste, ce thème de cette année, images indociles. Il y a du manifeste, il y a du défi aussi dans ce titre. Est-ce que cela veut dire que elles ne se laissent pas faire, ces images, qu'elles peuvent, qu'elles doivent, malgré tout, résister aux manipulations, tentatives d'effacement, censure, autocensure?
C'est absolument ça. Et c'est un titre qui nous est apparu, parce que quand on cherche un titre, au même titre qu'on cherche une image qui va porter le festival pendant l'été, on essaie en tout cas de faire passer un message. Et je pense que face à tout ce qui se passe actuellement et à tous ces discours dominants et déconstructeurs et oppresseurs, je pense que c'est vraiment important en tout cas d'avoir eu un positionnement, et c'est ce qu'on a essayé en tout cas de faire dans cette programmation de cette année.
Vous avez aussi beaucoup parlé de polyphonie pour cette édition. Alors clairement, il y a une manière d'affirmer que l'autre n'est pas une menace, un danger, mais on entend aussi dans polyphonie la question de la voix, des voix, porter la voix de celles et ceux que l'on entend peu ou qui ont été silenciés. Est-ce que l'idée, Christophe Wissner, c'est aussi de dire que les images parle et que l'œil, d'une certaine manière, entend?
Oui, absolument. Je dirais que les images, en fait, révèlent, permettent en tout cas d'exprimer des positions, permettent de révéler des existences, tout simplement, puisque vous le disiez vous-même, ces personnes et ces communautés qui ont été silenciées pendant si longtemps, par l'image, retrouve en tout cas une existence, une légitimité, une reconnaissance aussi de la part de leur père, enfin comme des visiteurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. On a écrit un chapitre qui s'appelle À contre-voix, et je pense que c'est ce chapitre qui porte en tout cas cette parole. De l'Australie, en passant par le Brésil, en passant par les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Et en fait, toutes ces communautés qui ont été quand même pendant très très longtemps occultées, voire disséminées, retrouvent maintenant un droit de parole, et je pense que c'est légitime, et c'est très très beau en tout cas.
Tout ça avec aussi beaucoup de respect, et peut-être on peut s'arrêter justement un petit peu sur ces travaux venus d'Australie et du Brésil notamment, hein, que vous mettez en valeur cette année, et de la manière dont cela se fait, parce que vous avez aussi pris soin d'éviter tout regard exotisant, donc c'est toujours ça aussi, comment on met en valeur ces travaux sans porter un regard exotisant sur eux.
je dirais que c'est un regard de l'intérieur et c'est ce qui est intéressant. Le fait que des photographes ou des artistes qui sont issus, si je prends par exemple le cas du Brésil, de communautés indigènes, de communautés afrodescendantes, de minorités, et qu'ils se documentent, qu'ils travaillent en fait eux-mêmes sur leur propre histoire, c'est cette réappropriation de l'histoire qui est en fait le pas aussi le plus décisif. On a aussi la même chose avec l'Australie. Et je dirais aussi la collaboration des commissaires, puisque l'Australie, l'exposition sur la scène australienne a été réalisée par 4 commissaires, 2 qui sont d'origine autochtone et 2 qui ne le sont pas, qui sont donc descendants européens, des colons européens. Je veux dire, le fait que ce dialogue aussi puisse exister entre ces deux franges de la population. Le commissaire général de l'exposition australienne rappelait que en fait, les populations autochtones représentent maintenant que 4% de la population globale de l'Australie. Donc voilà, ça en dit aussi long sur un passé. Et donc le fait que ce dialogue puisse exister, que cette co-construction puisse exister, je trouve ça... En tout cas, je trouve que c'est un signe positif et qui donne un réel espoir. C'est-à-dire que les rencontres sont là évidemment aussi pour témoigner de ce qui a été fait autrefois, mais sont aussi là pour donner de nouvelles lumières. Et j'espère en tout cas que cette indocilité des images apportera cette nouvelle lumière.
L'exposition On Country, photographie d'Australie, donc elle est proposée à l'église Sainte-Anne. C'est de cette exposition qu'est tirée la photographie utilisée pour l'affiche des rencontres cette année. Dans les grandes directions, il y a aussi évidemment les archives, tout ce qui est proposé autour ou à partir des archives. C'est une dimension importante, bien sûr, et peut-être aussi que c'est ce qui nous permet de regarder l'inédit comme des archives du futur.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai que l'archive revient très souvent aussi bien à un niveau personnel qu'à un niveau, je dirais, plus global et plus général. Et si on pense au rapport que, par exemple, une Diana Marcosian a dans l'histoire de sa famille, dans la quête du père, ou une Camille Lévesque sur l'image générale du père. En fait, ce sont des images, alors soit qu'elles ont prises de leur propre histoire, de leur propre archive, et là c'est le cas de Diana Marcosian, qui part à la recherche de son père et qui retrouve en fait les images que son père avait gardées avec lui suite à la disparition de sa femme avec ses 2 enfants. D'un autre côté, l'image sert également à raconter une histoire, je dirais, plus générale sur, par exemple, l'image du père. Et là, Camille Lévesque a une approche finalement aussi bien personnelle que finalement plus sociologique. Et puis après, il y a l'image qu'on appelle l'image vernaculaire ou l'image anonyme. Et là, on a une très très belle exposition sur une collection de Marion et Philippe Jacquier, qui étaient des collectionneurs, des amoureux de la photographie anonyme, qui ont une galerie qui s'appelait Lumière des Roses. Et là, on présente cette année, grâce à la Fondation Antoine de Galbert, à peu près 150 images tirées de ce fonds de plus de 10 000 images qu'on pourra plus tard, si on le désire, aller consulter au musée de Grenoble, puisque le fonds va être versé au musée de Grenoble, et qui raconte en fait à quel point cette photo anonyme et finalement ces archives anonymes qui sont multiples ont habité notre histoire aussi bien intime que la grande histoire, puisque dans cette exposition on retrouve la seule photo qui a été prise du procès d'Émile Zola, qui est une photo anonyme. Et ça en dit déjà long sur la présence de la photo dès le 19e siècle.
Éloge de la photographie anonyme. Donc, alors, les archives aussi peuvent devenir indociles. On en a plusieurs exemples et on en parlera aussi tout à l'heure. Il y a 47 expositions, donc on ne va pas pouvoir toutes les citer, mais rappelez bien sûr la présence de Nan Goldin, qui a reçu le prix Women in Motion Caring, la grande exposition sur Yves Saint-Laurent et la photographie. Un mot peut-être aussi pour terminer sur l'émergence avec le prix Découverte Roederer.
Oui, alors le prix Découverte qui est soutenu par la Fondation Louis Roederer chaque année. Donc on lance un appel à candidature et on nomme un ou une commissaire. Et cette année, on trouvait que ça avait en tout cas aussi du sens, c'était une réflexion aussi commune par rapport à la programmation, d'avoir quelqu'un qui était issu du continent latino-américain. Et donc on a un commissaire mexicain, César González Aguirre, qui a en fait participé, qui a sélectionné sept artistes et photographes, pour être très précis, et qui traite justement de ce dont on vient de parler, en fait, se reflète aussi dans cette sélection du prix Découverte. Et après, Voilà, ce que je tiens aussi à dire, c'est que l'émergence n'est pas que sur ce prix, absolument, mais elle est aussi multiple dans la ville. On va penser à Lila Neutre qui parle des communautés twerk et du voguing. On peut penser à Louise Mutrel.
Au jardin.
Au jardin, dans le jardin d'été. Voilà, c'est aussi les rencontres, c'est l'histoire. Tout à l'heure, vous parliez donc des différentes expositions historiques. Mmh. On a parlé des archives. Je sais que tout à l'heure, vous allez accueillir Agnès Geoffrey, voilà, qui a fait un travail formidable avec Vanessa Desclou. Mais c'est aussi, en fait, la scène émergente qui se dissémine, en fait, à l'intérieur des différents espaces, puisqu'on occupe cette année 27 espaces, 47 expositions, voilà, ce qui est assez colossal. Par exemple, une autre jeune que je trouve aussi très intéressante et qui fait un lien avec le premier chapitre à Contrevoix dont on parlait tout à l'heure, mmh, et Caroline Monet qui témoigne en fait de ses origines autochtones du nord du Canada et qui réécrit en fait aussi une histoire par rapport à ces communautés qui ont disparu, tout en jouant d'un rapport sur la mode qui est aussi très très intéressant.
Merci beaucoup Christophe Wissner. Voilà, c'est la richesse effectivement des rencontres, aussi cette émergence. Bonne suite de festival. On vous laisse retourner dans les expositions à Arles, et nous poursuivons donc ces midis consacrés aux rencontres de la photographie avec le monde de Louise Stettner, rétrospective à voir à l'espace Van Gogh à Arles. Bonjour Jeannette Tiflant-Stettner.
Bonjour.
Vous êtes la veuve de Louise Stettner, vous veillez sur ses archives et vous avez joué un rôle important dans cette exposition dont vous êtes la commissaire. Virginie Chardin, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. Le monde de Louise Stettner est aussi un ouvrage publié à l'occasion de cette exposition aux éditions de La Martinière. Vous y expliquez dans le prologue, Virginie Chardin, que cet artiste, né à Brooklyn en 1922 et mort à Paris en 2016, fait partie, je vous cite, de ces photographes dont on admire régulièrement les œuvres sans vraiment les connaître. Est-ce à dire que même vous, grande spécialiste de la photo, vous ne le connaissiez pas bien jusque-là ?
Mais absolument. On fait parfois de très belles découvertes dans la photographie. Et dans mon cas, c'est en allant visiter la maison de Louis et Jeannette, qui se trouve à côté de Paris, à Saint-Ouen, que je suis tombée sous le choc. Je connaissais Louise Stettner par quelques images un peu iconiques, un peu éparses. Mais j'ai découvert un monde, c'est pour ça que d'emblée l'idée du titre « Le monde de Louise Stettner » s'est imposée, c'est-à-dire à la fois le monde, le siècle dans lequel il a vécu, puisqu'il a photographié, il a vécu jusqu'à quasiment 94 ans, et son monde intérieur qui était l'espace de son atelier, de sa maison, et surtout les archives qu'il avait laissées.
Cette maison donc où vivait toujours Jeannette Stettner, oui. On comprend donc que cette exposition vient aussi de votre rencontre à toutes les deux. Pour vous qui vivez justement parmi ces archives, qui continuez à les découvrir, à découvrir des inédits, pourquoi est-ce que c'est important ce type d'exposition avec justement ce titre, Le Monde de Louise Stettner ?
Oh, c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un qui avait voulu de comprendre toute la vie de Louis. Et donc, c'est... Quelquefois avec les exhibitions, il y a concentré dans une petite partie. Mais pour moi qui vis parmi les archives, c'est un monde, c'est presque un univers. Et donc pour Virginie d'avoir une curiosité de la complexité de Louis, ça c'était une façon fraîcheur pour moi. Et donc ça, c'était un voyage, je crois, nous avons pris ensemble une aventure dans ce monde.
Et que vous nous invitez à faire avec vous. Alors si l'on doit citer une ou deux photos célèbres de Louise Stettner, il y a ces deux petits garçons qui portent un béret photographié par Stettner à Aubervilliers lors de son premier long séjour à Paris après la guerre. Il y a aussi cet homme qui s'offre au soleil sur un banc face à Manhattan depuis Brooklyn, photographié en 1954. Brooklyn, c'est là que ça commence, Virginie Chardin. Louise Stettner y naît en 1922 et il s'intéresse assez tôt à la photographie.
Oui, très jeune, dès l'âge de 16 ans. En fait, il tombe sur des revues qui dataient d'ailleurs plutôt de 1900, la revue Camera Work. Et il a un choc. Il se dit, mais la photographie, dans le fond, c'est tout autre chose que prendre sa famille en vacances ou documenter son quartier ou même le journalisme, mais que ça peut être vraiment un moyen d'expression personnelle, d'ordre artistique, esthétique, je dirais même d'ordre cosmique dans son cas. Donc il a vraiment un choc et d'emblée une très haute de la photographie, particulièrement du noir et blanc.
Et il va tout au long de sa vie beaucoup s'intéresser aussi à ce que font les autres, à l'histoire de la photo, ça vous le relevez en disant que c'est d'ailleurs assez rare. Il se forme auprès de la Photoligue. Qu'est-ce que c'est la Photoligue ?
La Photoligue, c'était une association de photographes new-yorkais très engagés sur le terrain social et même politique et aussi sur le terrain de la photographie artistique. Mais c'était une association qui regroupait aussi bien de grands photographes que des amateurs, où tout le monde pouvait venir, où on pouvait apprendre, où on pouvait rencontrer des gens. Et lui, il est très vite attiré par ce cercle-là. Et c'est là où il va se former et justement apprendre aussi l'histoire de la photographie. Et effectivement, c'est assez rare comme cas. Toute sa vie, il tiendra à rendre hommage aux autres photographes qu'il admire et parfois même en se mettant en retrait. Ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'aujourd'hui, il ne soit pas aussi reconnu qu'il le mérite.
Et ce qui explique aussi, ce qui illustre peut-être une posture d'humilité, une certaine humilité qu'on peut aussi sentir dans ces photos. Et on va y revenir. Alors, donc, vous le dites, Louis Stettner est engagé à gauche, il va le rester toute sa vie, il est marxiste. En temps de maccartisme, ça va lui poser quelques problèmes. Jeannette Stettner, il a été fiché au FBI pendant des années, c'est ça ?
Oui, ça c'était une grande surprise pour moi parce que j'ai su que après peut-être que c'était en 1952, il a travaillé pour le Marshall Plan. Et il était viré de son travail là-bas parce qu'il était parti de la Photoligue. Il était l'ambassade américaine avec le FBI là-bas et ils ont dit, je suis désolé, lui, c'était pas possible pour lui de dire les noms de les autres membres dans la Photoligue qui a eu les idées à gauche. Donc, il était viré. Donc, j'ai cherché pour cet renseignement. Mais quand j'ai contacté le Freedom of Information Act, j'ai trouvé qu'il a eu deux dossiers de les années 70, qui c'était presque 200 pages. De les petites choses. J'ai entendu quelque chose de spécial, mais c'était, il n'y a rien. C'était les choses ridicules.
C'était de l'excès de, bon, voilà.
Ils ont parlé de la Photoligue. Il enseignait? Oui, à Photoligue en 46. Donc ça c'était dit dans cet report. Donc, il était toujours sous la pression pour his Marxist beliefs.
Alors, lorsque les États-Unis entrent en guerre, il s'engage, il devient photographe militaire, puis c'est le départ pour Paris en 1947. Il y va initialement pour organiser une exposition, faire, disons, une sélection en vue d'une exposition de photographie française aux États-Unis. Il devait rester à Paris 2 semaines, il va rester 5 ans.
Paname, ce soir j'ai envie de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions. Des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris, tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la scène et les noyers, ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname,
C'est fou ce que tu peux faire causer, mais les gens savent pas qui tu es. Ils vivent chez toi, mais te voient jamais.
C'est Léo Ferré que nous entendons, Léo Ferré que Louis Stettner a rencontré à Paris, alors que le musicien n'était pas du tout connu, hein, à l'aube des années 50. Mais à Paris, Louis Stettner rencontre surtout Édouard Bouba, qui restera un ami proche, et Brassailles, qui écrit à son sujet, au sujet de Louis Stettner. Il ne se laisse séduire par aucun pittoresque, il choisit les maisons d'habitation les plus grises, les plus vulgaires, ni belles, ni laides, ni plaisantes, ni sinistres. Il me plaît qu'un jeune photographe s'interdisant les tours faciles de l'originalité, renonce à tout éclat, à tout effet, à tout brillant, ne cherche sa voix qu'au sein même du banal quotidien. Virginie Chardin.
Oui, la citation de Brassailles, elle est hyper juste quand on regarde son œuvre, et elle est même juste pour son tout au long de sa vie. Mmh. En fait, c'est effectivement quelqu'un qui ne cherche pas la séduction, qui ne cherche pas les effets, qui a des cadrages assez étranges, parfois qui est capable de mettre un tronc d'arbre en plein milieu d'une image, de couper l'image en deux, qui photographie les gens de dos. Donc il y a effectivement chez Stettner quelque chose d'un peu de très graphique, d'assez bizarre. C'est souvent comme ça qu'on le qualifie à l'époque, et qui est très très loin des clichés et des canons du photojournalisme. Ça ne l'intéresse pas du tout.
Oui, c'est ça. Il a jamais été attiré par ça.
Pas du tout. C'est pas du tout quelqu'un qui a le rêve de devenir le grand reporter comme beaucoup de photographes de son époque. Mmh. Lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment une expression personnelle à travers la photographie. Souvent, en se plaignant de ne pouvoir en vivre, mais c'est aussi le résultat d'un choix personnel, effectivement, de radicalité.
Alors, très tôt, ce qui caractérise sa photographie, c'est son humanité, son approche empathique, comme vous l'écrivez. Entre la fin de la guerre et son départ pour Paris en 1947, il réalise notamment une série dans le métro. Ce qui me fascinait, c'était la possibilité de contempler les autres, dit-il. Par quoi est-ce que ça passe? Voilà, si on essaye de décrire un peu non seulement à quoi ça ressemble, mais de quelle manière ça arrive jusqu'à nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'en regardant ces photos, on sent effectivement cette approche empathique?
Alors oui, le travail dans le métro à New York, c'est la première série personnelle qu'il fait quand il revient de la guerre. Il a vu des horreurs, il est arrivé à Hiroshima 3 semaines après la bombe atomique, mais il a aussi l'idée que ses concitoyens américains, des gens ordinaires qui n'étaient pas formés au combat, ont réussi à vaincre le nazisme. C'est quelque chose qui, chez lui, est très fondateur. Et quand il revient à New York, il va dans le métro et il dit « ses compatriotes, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les observer ». Et il regarde ce qu'il intéresse. Il se cache pas du tout, il s'assoit en face d'eux et il photographie leur visage dans un cadre très rigoureux, très prédéfini. Et ce qui l'intéresse, c'est les émotions. Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce que ces gens pensent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Alors, c'est pas par hasard, hein. C'est des gens qui vont souvent au travail, donc des travailleurs. C'est quand même un des sujets majeurs de son œuvre. Et aujourd'hui, ces visages, ils nous parlent encore avec leur mystère, c'est-à-dire on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils... on ne sait même pas, parfois on voit un homme et une femme, on ne sait pas si c'est un couple ou simplement deux personnes qui sont assises l'une en face de l'autre. Et c'est ça qui est très stettnérien, c'est que ça nous raconte quelque chose, des bribes de la vie de gens dont finalement on ne sait rien, sans la moindre anecdote. Et ça reste quand même poignant et très émouvant à nos yeux aujourd'hui.
Jeannette Stettner, on souligne beaucoup cela, hein, cet intérêt pour l'autre, pour les autres, sans chercher à en tirer quelque chose ou à provoquer quelque chose. Vous aussi, vous parlez bien sûr de son empathie, de sa profonde humanité. Il vous racontait d'ailleurs, je crois, quand il rentrait, il vous racontait ses flâneries, ses rencontres.
Oui, il revient à la maison avec les expériences, les petites vignettes de ce qu'il a vu. Souvent, par exemple, il y a une série, il a fait sur le Bowery à New York, c'est avec les gens pauvres. Et il a toujours parlé avec les gens. C'était pas les photos qui étaient prises en cachant. Mais il a noté le nom de les gens quand il a tiré les épreuves. Il a pensé que c'était très important que ce visage, il y ait un nom de cette personne. Que, à New York, personne regarde cette personne. C'est perdu dans la foule, les foules. Donc ça, c'était très, très important à lui.
Vous l'avez dit, Virginie Chardin, donc il y a une part importante de son travail et c'est exposé là aussi à Arles, projet sur les travailleurs d'usine dans les années 70. Et là aussi, en fait, il le fait avec son regard et ses convictions. Comment parler de ces photos-là ?
Ces photos-là, c'est vraiment un projet qu'il a fait de façon très construite pendant 2 ou 3 ans, entre 74 et 76. Son idée, c'était de photographier les travailleurs manuels, les travailleurs des usines, mais surtout pas avec misérabilisme et surtout pas avec distance, mais avec l'idée de mettre en beauté et en majesté les corps et la noblesse du travail manuel, des gestes, etc. Et donc, ça donne une série qui est assez... on ne voit pas grand-chose du travail fait par les personnes, mais ce sont ces personnes elles-mêmes montrées de façon assez plastique, presque parfois comme des sculptures, avec des corps assez massifs, très solides aussi.
Alors la sculpture, justement, il en faisait la sculpture de la peinture, notamment dans les années 90, quand vous êtes venue à Saint-Ouen vivre avec lui, Jeannette Stettner. C'est très différent comme esthétique, vous le soulignez, Virginie Chardin, c'est très différent. Qu'est-ce qui lui plaisait dans ces travaux-là ?
Parce que Louis m'avait dit que avec son photographie, il a jamais touché quelque chose. Il ne range pas les scènes de photographier. Il était très envie de utiliser ses mains. Et aussi, on voit souvent maintenant dans les photos qu'il a prises à ce moment-là, les mains qui sont avec un visage ou quelque chose comme ça. Donc, c'était très important de manipuler. Et aussi, quand il était petit, c'était quelque chose qui... il était invité dans une école qui fait la sculpture, les choses comme ça. Donc, c'était un besoin qu'il a eu.
Et puis, il y a ce dernier grand projet qui ne se passe pas en ville, mais dans les Alpes. Nous allons écouter Louis Stettner en parler. Cet extrait d'un entretien réalisé au moment de l'exposition qui lui était consacrée au Centre Pompidou en 2016, peu de temps avant sa mort.
Quite by accident, I came across the Alpes. It's a forest, you know, not far from Hall. And everything about me inspired me a lot. It's nature.
Je suis tombée sur les Alpes. C'est une forêt, non loin d'Arles, et ça m'a beaucoup inspirée. C'est la nature sous son meilleur jour, dans toute sa créativité. J'y suis allée 14 fois et j'ai pris 46 photographies. Je suis revenue à un appareil de 8 pouces par 10. C'est celui avec lequel j'avais commencé à Paris en 47. J'ai toujours été attirée par la nature. J'ai fait plusieurs tentatives, partiellement réussies, car seul un grand négatif peut la capturer. L'appareil pèse environ 30 kilos. Ma femme, Jeannette, le transportait. Et voilà, petit à petit, quelque chose s'est développé et a évolué. Plus tard, j'ai appris que Van Gogh avait travaillé là, ainsi que Cézanne. J'étais tombée dans l'histoire de l'art en France. J'ai commencé avec la nature et je finis avec la nature. J'espère que ça n'est pas fini, mais c'est mon dernier projet et il est presque terminé.
La nature, Virginie Chardin, il y a aussi dans l'exposition, et je crois que c'est inédit, une série dans le Montana, dans les années 70 déjà, ça aussi, c'était important pour lui.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, mais il avait un projet dans les années 70, il avait même fait une maquette de livre qui est très intéressante, et puis ces paysages, il les a laissés de côté, peut-être parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur, mais il expliquait que sa première photographie, c'est celle d'un arbre dans la cour de son jardin, et en effet, la dernière dont vous avez parler, les Alpes, ce sont les dernières puisqu'il est décédé quelques semaines après avoir terminé ce grand œuvre.
Et ça aussi, finalement, ces arbres dans les Alpes, là, ces photos de la fin de sa vie et de son travail, elles sont absolument magnifiques et on retrouve presque une sensualité dans la manière de les photographier, qui est celle aussi avec laquelle il a pu photographier les travailleurs quelque part. Non.
Complètement, ce sont vraiment des portraits d'arbres. Voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est l'idée de la solidité des troncs. C'est surtout les troncs qui l'intéressent et de la résistance au vent contraire. Pour lui, il y a une allégorie de la vie et peut-être de sa propre existence.
Merci beaucoup Virginie Chardin. On peut signaler aussi que vous lancez un peu un appel à l'occasion de cette exposition à vos collègues chercheurs, chercheuses pour justement aller, parce qu'il y a encore sans doute plein de choses à découvrir, plein de facettes et notamment tout ce travail de sculpture, de peinture que l'on a rapidement évoqué avec vous Jeannette. Merci beaucoup à toutes les deux. Virginie Chardin, Jeannette Ifland-Stettner, Le monde de Louis Stettner est à voir à l'espace Van Gogh à Arles. Le catalogue est publié aux éditions de La Martinière. Dans un quart d'heure après le journal, la suite de cette émission consacrée aux rencontres de la photographie. Nous serons avec la plasticienne et photographe Agnès Geoffrey. Merci à tous.
Merci.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Avec aujourd'hui les rencontres de la photographie à Arles. Bonjour Agnès Geoffrey.
Bonjour.
Merici d'être avec nous depuis les studios d'ICI Gironde à Bordeaux. Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent. C'est le titre de l'exposition que nous pouvons découvrir à la Commanderie Sainte-Luce à Arles et le titre du livre qui l'accompagne aux éditions textuelles. Ensemble inédit d'œuvres, photos et textes que vous avez composés dans le cadre d'une recherche menée avec l'historienne de l'art Vanessa Desclos et qui signe avec vous le livre et qui est commissaire de l'exposition. Pouvez-vous nous expliquer pour commencer la manière dont a débuté la recherche qui a conduit à cette exposition et son objet, l'objet de cette recherche?
Alors, dans un premier temps, ça a été une invitation du FRAC Nouvelle-Aquitaine par l'intermédiaire de sa directrice Claire Jacquet, qui m'a invitée à travailler sur l'école de préservation de Cadillac, mais qui, avant d'être une école de préservation, a été la première prison pour femmes en France en 1818, près de Bordeaux. Et alors elle avait fait appel à moi car elle connaissait mon travail autour de la représentation des corps sous influence, mais aussi des corps résistants. Et ensuite, j'ai passé un an à me plonger dans les archives et ensuite avec Vanessa Desclos, nous avons souhaité postuler et avons été lauréates de la bourse de recherche et création de l'Institut pour la photographie de Lille, ce qui nous a permis pendant près de plus d'un an, voire deux ans, de nous plonger vraiment dans les archives des trois écoles de préservation, car il y en a eu trois en France. Donc c'était des institutions laïques, assimilables à des maisons de redressement pour jeunes filles. Et voilà, ça a donné lieu à ce livre, à des conférences performées dans un premier temps et à cette exposition aux rencontres d'Arles.
Vous avez donc travaillé sur ces trois institutions à Cadillac-sur-Garonne, mais aussi à Doullens dans la Somme et à Clermont-de-l'Oise dans l'Oise. Donc, on parle d'écoles de préservation, mais ce sont des lieux, et c'est aussi comme ça que vous les approchez, d'enfermement. Les jeunes filles sont appelées pupilles, vous parlez plutôt de détenues.
Oui, c'est ça. Alors, sous ce vocable d'école de préservation, c'est toute l'ambiguïté de ces institutions qui sont révélées par la terminologie même. Elles ont été créées de la fin 19e jusqu'au milieu 20e. Et en fait, en termes d'école, il y avait très très peu d'éducation au sein de ces institutions. C'était vraiment des institutions assimilées à des institutions carcérales et correctionnelles. Et ce terme de préservation relève toute l'ambiguïté, à savoir, il s'agissait de préserver la société de ces jeunes filles jugées déviantes et débauchées. Et on les enfermait jusqu'à leur puberté, 13, 14, 15 ans, jusqu'à leur majorité de l'époque, 21 ans. Donc, faut bien comprendre qu'elles restaient parfois pendant 8 années enfermées dans ces institutions. Mais sous ce terme de préservation, c'était aussi préserver la virginité des filles, qui était la peur, qui a toujours été de tout temps la peur ancestrale, à savoir ramener la valeur sociale d'une fille à sa virginité.
Parce que tout cela est très genré, et nous allons écouter à ce sujet l'historienne Véronique Blanchard, qui a travaillé sur ces structures et que vous citez beaucoup.
Pour les jeunes filles, c'était extrêmement clair que la société est encore dans des perspectives très liées à la virginité, l'innocence, la sagesse. Voilà, les jeunes filles, elles sont, par essence, dit-on au XIXe siècle, douces, compréhensives, dans la pureté. C'est très, très important. On est en train de préparer des jeunes filles à leur future fonction d'épouse et de mère. Et ça ne peut se passer que dans une virginité jusqu'au mariage et dans un épanouissement de la nature féminine vers la maternité. C'est très très fort hein, comme principe d'organisation de la société et on a pu dire de manière assez juste, je pense, que le 19e siècle est le siècle le plus restrictif à l'égard des droits des femmes hein, qui sont totalement soumises à l'homme dans le code civil. Et donc, ça met en place une image de la femme et de la jeune fille extrêmement contrainte qui fait que tout enfant de sexe féminin qui sort de ce cadre peut être considéré comme une déviante, comme une mauvaise fille, comme une jeune fille à corriger, comme une jeune fille qui n'a pas intégré les normes de genre qui lui sont imposées.
C'est un extrait d'un documentaire diffusé dans la série Une histoire particulière sur France Culture intitulé Les mauvaises filles du château de Cadillac et dans lequel on vous retrouve aussi Agnès Geoffrey. C'est vraiment ça, Les mauvaises filles. Alors, le titre des rencontres, Images indociles, correspond particulièrement bien à votre travail, à tout point de vue, puisqu'il y a donc ces archives que vous avez étudiées et votre travail de création à partir d'elle. Alors là, ça passe pas tant par la retouche, ce que vous avez pu faire sur d'autres projets, mais vous trouvez d'autres manières, en fait, de donner voix, corps, mouvement à ces jeunes filles à partir de ces archives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez donc à partir de cette matière?
Oui, alors, ce qui apparaît dans l'exposition Rencontres d'Arles, c'est en effet tout un corpus d'archives qui vont des archives qui relèvent toutes de l'autorité. Hein. Faut comprendre que c'est les archives institutionnelles, judiciaires, pénales. Et en fait, il y a eu très peu de corpus photographique qui émanait de ces écoles de préservation, si ce n'est le corpus photographique réalisé par le studio du photographe Henri Manuel entre 1929 et 1930, qui était une commande d'État. Et moi, à la genèse du projet, je suis partie un peu de ce corpus pour très vite m'en détacher, pour en effet créer un corpus photographique en noir et blanc qui est destiné à refigurer ces filles, la plupart du temps absentes dans les images, anonymisées, qu'on arrive à identifier par leur nom et leur prénom, mais sinon dont on perd toute forme d'identification. Mmh. Et donc c'était pour moi de recréer un corpus comme ça de figures de jeunes filles rebelles, indociles, la plupart du temps qui font face à nous, qui nous regardent et qui ont vraiment des postures de rébellion comme ça rentrée.
Alors effectivement, donc c'est des photos que vous mettez en scène. Hein. Ce sont vos photos qui font écho à ces photos documentaires, par exemple d'Henri Manuel que vous citiez, mais où effectivement elles redeviennent sujet. Je crois que c'est ça quand même l'idée. Et alors il y a différents types de photos, mais ce qui est très important à dire aussi, Agnès Geoffrey, c'est que vous les faites parler, ces images. Il y a aussi beaucoup de textes.
Oui. Oui, alors pour la première fois dans mon travail, je mêle vraiment mon travail d'écriture à mon travail photographique. Et on retrouve mes mots, soit qui accompagnent les images dans des corpus de texte en haut des photographies dans l'espace, ou alors dans une installation qui s'appelle Riposte, qui en fait reprend toutes mes poèmes que j'appelle des poèmes offensifs qui sont projetés sous forme de diaporama textuel sur mes photographies. Et donc, comme vous l'évoquez, en effet, c'est la volonté de refigurer ces corps absents et de redonner à entendre des voix dissidentes, des voix corrosives à ces jeunes filles.
Alors, on l'a dit, dans ces institutions, il y a la volonté de redresser, de remettre droite. Vous travaillez sur l'oblique, il y a des corps obliques dans vos photos, il y a la chute aussi, qui est un sujet très important dans votre travail.
Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres. Ma main droite tâtonnait sur des éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches des pierres éclairaient faiblement l'obscurité. Ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, descendit à travers côte jusqu'au bassin. Rien. J'étais intacte. Je pouvais continuer. Je me mis debout, le nez brusquement projeté contre les ronces, étalé en croix. Je me rappelais que j'avais omis de vérifier aussi mes jambes. J'ai la patte cassée. Je levai les yeux vers le haut du mur où ce monde restait, endormi. J'ai volé, mes chéris. J'ai volé, plané et tournoyé pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle. Et je suis là, assise, délivrée de là-haut, délivrée de vous.
Nous venons d'entendre, lu par Léa Weisgruss, un extrait de L'Astragale d'Albertine Sarrazin que vous citez avec Vanessa Desclos. L'écrivaine s'appelle alors encore Anne-Marie Renoux. Elle s'est évadée de Doullens dans la Somme. Là, c'est une chute qui libère. Je le disais, la chute est très importante dans votre travail. Il y a aussi dans cette exposition des images, voilà, de jeunes femmes qui sont en train de chuter, mais qui sont comme suspendues quelque part.
Oui, la figure du suspens est une figure récurrente dans mon travail depuis déjà plusieurs années. Pour moi, c'est vraiment une figure d'émancipation. C'est aussi la figure de la latence du trouble qui a priori convoquerait évidemment la chute, mais ces jeunes femmes restent dans un état de suspension qui contredit la fatalité de l'effondrement. Et c'était évoqué évidemment ces fuites ancestrales, mais aussi ces fuites très concrètes de ces jeunes filles qui se défenestraient, qui se jetaient par les fenêtres, parfois aussi pour se suicider, mais parfois évidemment souvent pour s'échapper. Et comme Albertine Sarrazin, qui parfois chutait de murs de près de 6 mètres, quitte à se briser les os ou à périr de leur chute.
Je crois que c'est Véronique Blanchard qui explique dans le documentaire dont nous avons entendu un extrait plus tôt que dans ces institutions, ces jeunes filles n'ont pas accès à leur image. On leur enlève aussi ça. Et là, bien sûr, évidemment, Agnès Geoffrey, de ce point de vue, vous opérez aussi un retournement d'une certaine manière.
Oui, en fait, ce qu'on retrouve dans les archives et dans les images d'Henri Manuel, d'ailleurs, c'est l'anonymisation du corps des filles, l'annihilation de toute part de féminité. On recouvrait leur corps de plusieurs couches de vêtements informes. Dès qu'elles rentraient dans ces institutions, on leur coupait les cheveux pour des raisons d'hygiène, mais évidemment aussi pour annihiler toute part du féminin. Et donc à travers notamment la photographie qui accompagne la couverture du livre chez Textuel, il y a une jeune fille comme ça dont on ne voit pas le visage
qui
produit une figure de retournement, de renversement. Et le titre d'ailleurs est le début d'une phrase de Monique Wittig, tout geste est renversement. Où on voit en effet une jeune fille qui fait le poirier, bien tendue sur ses bras, bien ancrée à terre, qui à la fois cache son visage par la jupe et découvre son bassin. Et c'était pour moi aussi insister sur le pouvoir pelvien, sur le pouvoir du bassin des femmes.
Et on entend aussi Monique Wittig dans votre titre, hein. Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent, ce « elles » au pluriel bien sûr. Merci beaucoup Agnès Geoffrey, cette exposition est donc à la Commanderie Sainte-Luce à Arles, le livre est publié par les éditions textuelles. Merci à vous, merci aux équipes d'Ici Gironde qui vous ont accueilli ce midi. Les rencontres de la photographie à Arles se poursuivent jusqu'au 5 octobre en partenariat avec France Culture.